Bien, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette rencontre intitulée « Femmes d'influence ». Nous avons, comme vous le savez, deux invités. Patrice Duhamel, qui, je l'espère, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et Natacha Henry, bonjour.
Bonjour,
Bonjour.
Alors, vous êtes historienne, essayiste, journaliste. On vous doit plusieurs ouvrages qui sont consacrés, Natacha Henry, à des destins de femmes, mais surtout à leurs conditions dans notre société. Je vais citer quelques titres. Dites-le avec des femmes, le sexisme dans les médias, les mecs lourds ou le paternalisme lubrique. Là, ça se passe de commentaires. Les filles faciles n'existent pas. Les sœurs savantes. On s'y arrêtera durant quelques instants. Ce sont deux destins qui ont fait l'histoire. Et puis ce livre, cette biographie qui sort de presse à la librairie Vibert, Marthe Richard, l'aventurière des maisons closes. C'est une édition revue et corrigée. La première édition est parue en 2006. Pourquoi y revenir? Nous le verrons tout à l'heure. C'est un livre enquête, je vous le disais là hors antenne, passionnant, qui se lit comme un roman, qui est consacré à une femme dont la vie a été un roman, une femme incroyable, une petite ouvrière, couturière, prostituée très jeune, puis aviatrice, espionne durant la guerre, une aventurière dont vous retracez dans une belle écriture le parcours d'une femme, d'une époque et d'une société sans négliger ses zones d'ombre. J'ajoute que mariée à plusieurs reprises, Marthe Richard apparaîtrait lucide d'une certaine manière sur ce qu'elle vit, sur ses relations amoureuses, sur le pouvoir patriarcal. Elle écrit plusieurs livres, plus ou moins farfelus, dites-vous. C'est enfin quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'ennemis, des journalistes, des policiers, des hommes politiques, lorsqu'elle milita, on le sait sans doute, pour la fermeture des maisons closes. Fermeture qui intervint le 6 novembre 1946, et ce succès lui valut, le mot est d'Antoine Blondin, le pseudonyme humoristique de veuve Kiklicot, en référence, en référence à la maison de Champagne. Alors vous avez, Natacha Henry, durant plus de 10 ans, vécu d'une certaine manière avec Marthe Richard.
En fait, ce nom de Marthe Richard est connu en France. Alors, je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, tout le monde associe ce nom avec la fermeture des maisons closes de 1946. Moi, je ne savais pas très bien qui c'était. Et comme je fais toujours des travaux historiques autour du destin des femmes, je me suis dit, quand même, qui a porté ce projet de fermer les maisons closes en 1946 en France? Et du coup, j'ai effectivement plongé dans l'histoire de Marthe Richard il y a 10 ans, parce qu'en 2006, on fêtait les 60 ans de la fermeture, et cette année, parce que j'avais recueilli beaucoup d'archives entre-temps, et que c'était les 70 ans, vous savez, les éditeurs ont toujours besoin d'une date anniversaire, donc c'était les 70 ans, cette année en France, il y a une loi contre la prostitution, etc., donc c'était un peu dans l'air du temps. Mais c'est vrai que pour les sujets du XXe siècle, ce qui est bien maintenant, c'est que des archives s'ouvrent de plus en plus. Et j'ai pu voir que dans pas mal de moments de la vie de Marthe Richard où on a considéré qu'elle était complètement farfelue, qu'elle disait n'importe quoi, que c'était une pauvre fille complètement paumée, en vérité elle disait la vérité. Et notamment j'ai pu explorer les archives militaires du fort de Vincennes à côté de Paris, qui prouvent qu'en effet, comme elle l'a dit, elle a été espionne pendant la Première Guerre mondiale et elle a rendu service à la France. Donc c'était quelqu'un d'un peu plus solide que ce qu'on avait voulu nous faire croire.
Par parenthèse, que pensez-vous de cette nouvelle loi sur... À propos de la prostitution, je salue Patrice Duhamel qui nous rejoint. Bonjour. Natacha Henry.
Natacha Henry, bonjour. Pardon. Moi, je pense qu'en 2016, toute forme de prostitution, sauf cas archi-exceptionnel, est une situation de misère et que donc c'est très bien qu'on ait une loi en France. Ça a été compliqué, mais c'est toujours très compliqué. La France est toujours coupée en deux chaque fois qu'on décide de quelque chose un peu comme ça. C'est vraiment, il y a les pour et les contre, vous ne pouvez plus aller à un seul dîner sans que tout le monde s'engueule, mais au fond, ça progresse. De mon point de vue, c'est très bien.
Pourquoi vous êtes-vous toujours intéressé d'une certaine manière au destin des femmes, à leurs conditions?
Alors, ce n'est pas exactement le destin des femmes. Ce qui m'intéresse encore plus, ça fait 20 ans que je fais que ça, donc effectivement j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu. Ce qui m'intéresse profondément dans cette histoire, plus précisément, c'est de quoi elles se sont sorties. C'est-à-dire, ce sont Marthe Richard, vous l'avez dit, elle a été apprentie couturière. Merci. Elle a donc quitté l'école à 13 ans, elle a été apprentie couturière, elle a été mise sur le trottoir par un salopard qui passait par là, elle a attrapé la syphilis. C'est une vie épouvantable dans les faubourgs de Nancy. À l'époque, on n'est même pas... on est fin 19e siècle, hein, c'est vraiment la misère. Et puis un jour, cette fille-là, elle se dit maintenant, ça va comme ça, elle prend le train et elle va à Paris et elle construit un nouveau destin et elle est très très jeune et elle va le faire. Et c'est quelqu'un qui a toujours dit oui aux choses qui se présentaient. Est-ce que vous voulez porter cette loi de fermeture? Elle a porté la loi de fermeture, elle voulait faire des choses, elle a toujours été les faire. Et donc ça, c'est admirable. Maintenant, de manière plus générale sur les destins de femmes, comme vous dites, ce qui m'a toujours intéressée, c'est qui vous donne la clé pour y aller, quoi. Et vous avez mentionné tout à l'heure le livre Les Sœurs Savantes, ce qui est l'histoire, la vraie histoire, évidemment, historique, de Marie Curie et de sa sœur aînée, qui avait 2 ans de plus qu'elle. Et ça, ça m'a intéressée parce que ça voulait dire que Marie Curie avait eu cette aide et cette solidarité de sa sœur, alors qu'elle a toujours été vue comme très, très solitaire, ou bien au mieux avec Pierre Curie. Mais j'aime bien toujours, c'est de l'histoire positive. C'est comment tu fais pour t'en sortir, qui t'a aidé à ce moment-là, quand est-ce que tu as dit oui à un destin un peu mieux, quel est le courage que tu as eu pour y aller, et donc tous mes travaux sont extrêmement positifs ce sujet.
Mais vous avez mené vous avez mené des enquêtes sur les femmes battues, par exemple.
Oui, j'ai fait un livre qui s'appelait Frapper n'est pas aimer, qui est une enquête où je me suis basée dans les foyers d'hébergement pour les femmes sorties des violences conjugales, mais en reconstruction et en protection. Et là encore, c'était vraiment pas pour pleurer, hein. Et d'ailleurs, elles pleurent pas, hein. Elles sont fortes, elles sont belles, elles sont de toutes les tailles, de tous les âges, etc. Il y a une sorte d'énergie féminine, si je puis dire, je sais pas, mais c'est un peu ça. Il y a une sororité à laquelle je tiens beaucoup, qui est vraiment magnifique et que j'essaie de reproduire dans tous les livres.
Mais pourquoi, durant 20 ans, cette démarche-là? Cette exigence.
Mais c'est un vrai métier. mais parce que quand... Comment dire? Parce que c'est vrai que les gens, ils font... Il y en a qui disent... ouais, c'est des destins de femmes et tout ça, mais au fond, il faut quand même aller au le pourquoi du pourquoi de vous faites ce genre de livre. Donc, il y a quelque chose de... comment dire que ce soit des livres historiques ou que ce soit des livres sur l'époque actuelle comme Frapper n'est pas aimer, c'est vraiment regarder comment on peut faire mieux, quoi. Regarder des modèles de comment on peut faire mieux, et je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, par exemple, sur Marthe Richard. Marthe Richard, elle n'a pas été à l'école, elle a quitté très très tôt, elle n'avait vraiment aucune éducation intellectuelle, comme on peut dire, mais elle avait des envies. Par exemple, elle voulait piloter un avion. Donc, en 1913, elle avait rencontré un mari bienveillant et un peu riche, ça aide parfois même dans les destins de femmes indépendantes. Et donc, elle a passé son brevet de pilote, et ensuite, elle voulait absolument se battre pour la France. Surtout qu'il a été tué à Verdun, donc elle était seule au monde, elle avait 25 ans. Et puis... ça m'intéresse quand on vous dit non et que vous essayez de quand même aller plus loin. Et ça, dans les destins de femmes, on le retrouve beaucoup. Et donc, on lui dit non. Le ministère de la guerre lui dit, mais enfin, il n'y a pas de femmes au front, vous avez complètement rêvé. Elles sont 4-5 aviatrices, on ne leur dit pas de femmes au front, vous avez qu'à tricoter des pulls pour les soldats. Et puis finalement, ils lui disent, eh ben, vous allez être espionne, puisque voilà, vous voulez rendre service à la France, vous allez partir à Madrid et devenir la maîtresse de l'amiral von Kron, l'attaché allemand, très important dans la guerre sous-marine, et puis vous allez essayer de trouver des infos. Et alors bon, je ne sais pas ce que d'autres auraient fait à sa place, mais moi j'aime bien l'idée qu'elle se dise, eh ben ok, je suis toute seule au monde, je vais rendre service à ma patrie, puisque c'était ça sa politique, hein. Et effectivement, et c'est là qu'il est très important de faire attention à ce qu'on fait de ces destins de femmes, parce que mes camarades féministes trouvent que les femmes sont invisibles. Heureusement, de temps en temps, on les ressort de l'invisibilité. Néanmoins, une fois qu'on les a remontées un peu à la surface, il est important de montrer ce que ça leur a coûté, qui a été là pour les aider, quand est-ce qu'elles ont dit oui au lieu de dire non, ou non au lieu de dire oui. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'espèce d'héroïne. J'ai vu ça avec Marie Curie. Qui n'était pas du tout... Enfin, je veux dire, ils nous construisent des légendes qui sont très difficiles pour ensuite les jeunes filles qui se disent « Bah, dis donc, je vais jamais y arriver. » Alors là, c'est même... Et alors qu'en fait, on peut, parce que c'est des gens qui ont des... qui font ce qu'elles peuvent avec leur destin, et je trouve que cette... Et je suis aussi très intéressée à l'histoire des corps dans l'espace, enfin... comment dire ? C'est-à-dire que Marthe Richard, par exemple, donc... je saute à une étape, mais en 1932, l'ancien patron des renseignements généraux va écrire son histoire, comment ça s'est passé quand elle était espionne pendant la guerre, la première guerre en Espagne. bon, c'est des mecs, à l'époque, ils écrivent de façon très romanesque, donc c'est magnifique, c'est complètement délirant, mais en même temps, c'est assez vrai, comme j'ai pu le prouver grâce aux archives, finalement. Et après, juste après, en 1937, il y a un film qui est fait où Edwige Feuer incarne Marthe Richard. Et l'allemand, c'est Erich von Stroheim. Donc c'est quand même, elle est projetée, la petite couturière de Nancy, tout d'un coup, elle est connue partout et tout. Et là, on lui dit, est-ce que vous voulez faire des conférences pour raconter votre histoire? Et elle dit, oui, bien sûr. D'abord, elle a besoin de gagner sa vie. Il faut toujours se demander, quand on fait un destin de femme, comment elle gagne sa vie. Et aussi, quelle peur elle a ou quelle peur elle a pas. Donc elle dit, ok, je vais faire des conférences. Et en fait, moi je vois maintenant, parce que je travaille beaucoup avec les associations de terrain, elles passent leur vie à apprendre aux dames à prendre la parole. Hein. Parce que les dames, elles disent toujours, par exemple, vous faites un reportage, elles disent, vous pouvez demander à mon mari, moi je sais pas, ou bien elles osent pas, ou bien, même dans les conseils municipaux, on voit ça et tout, elles n'osent pas et tout ça. Il y a toujours un macho qui va dire, t'inquiète, je m'en occupe, donc évidemment elles osent encore moins. Donc c'est vraiment très compliqué de trouver sa place. Et bien, cette Marthe Richard, il y a 70 ans, presque même 100 ans pour certaines périodes de sa vie, elle a dit, ok, j'y vais, je prends un micro, j'y vais, vous allez me payer pour que je le fasse, parce que c'est comme ça qu'elle gagne. Et bien, je trouve que ce sont des modèles de force.
On se retrouve dans un instant, le temps d'accueillir Patrice Duhamel, bonjour.
Bonjour,
merci de nous rejoindre. J'imagine que tout le monde le sait, vous avez passé toute votre vie dans le monde de la presse, à la télévision, à TF1, à la 5, à la radio, RMC, France Inter, puis au service public France 2. Et de 2005 à 2010, vous avez été directeur général de France Télévisions. Vous avez également travaillé pour la presse écrite, pour le groupe Le Figaro. Vous êtes le frère d'Alain Duhamel, commentateur politique bien connu, et l'auteur de plusieurs livres. Je vais citer quelques livres que vous avez écrits d'ailleurs avec Jacques Santamaria, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui est lui aussi un homme de télévision, de radio, scénariste et réalisateur. En 2012, Élysée, coulisses et secrets d'un palais, de Bonaparte à Nicolas Sarkozy, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans ce livre qui sort de presse maintenant. Une anthologie des cruautés politiques que je ne connais pas, mais je vais me précipiter d'ailleurs. Il est sorti chez Plomb, mais je vais me précipiter.
Les flingueurs.
Pardon ?
Les flingueurs.
Oui, parce que vraiment, c'est bon. Et puis, ce nouveau livre, donc Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir. Et vous mettez en exergue, Patrice Duhamel, cette citation de Talleyrand, la politique, c'est les femmes. Vraiment ?
Oui, on a fait ce livre parce que enfin, Jacques est un des plus grands scénaristes français, pour ceux qui s'en souviennent peut-être. C'est lui qui a, par exemple, adapté toutes les contes et les nouvelles de Maupassant pour France 2 au moment où je dirigeais France Télévisions. C'est le grand adaptateur de Simenon, etc. Il est en même temps historien, donc on est très complémentaires. Il est à la fois un peu sur les scénarios et l'histoire, et moi je suis sur l'histoire présente comme journaliste. Et on a toujours été frappé, j'ai toujours été frappé, depuis que je fais ce métier, ça fait un certain temps, par l'importance que jouent les femmes dans la vie réelle des grands hommes politiques. Mmh. Le fait que ça n'est que très peu connu, sauf exception, que l'on a tendance à caricaturer ces femmes, ces compagnes, les premières dames par exemple. Alors on nous a dit au moment où le livre est sorti, au mois d'octobre, vous réhabilitez Yvonne de Gaulle. Oui, on réhabilite Yvonne de Gaulle, parce qu'Yvonne de Gaulle, dans tous les livres d'histoire...
Pour une bonne raison.
Et il y en a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines, voire des milliers. Elle a toujours été considérée comme extrêmement gentille, sympathique...
Bigote.
Bigote, dans son coin, ne disant rien, n'osant pas parler... avec des choses en même temps très, parfois très amusantes et très intelligentes. Il y a un des grands biographes de Gaulle, Jean Lacouture, qui est disparu il y a quelque temps, qui avait dit Charles et Yvonne de Gaulle. Charles, c'est les points d'exclamation, Yvonne de Gaulle, les points de suspension. C'était assez joli.
Ouais.
Mais voilà, elle était réduite à ce rôle, alors que
en 67.
Elle a beaucoup pesé avant ça, elle a beaucoup pesé pour que les femmes obtiennent enfin, ce qui est quand même absolument... On a oublié ça. Il y a des choses qu'on oublie dans ce pays. Les femmes n'ont eu le droit de voter qu'après la guerre. C'est quand même... Non, mais ça fait 70 ans.
Grâce à une ordonnance du général de Gaulle.
Oui, mais justement. Donc... Elle a beaucoup pesé dans ce sens-là. Et si ça a été décidé à ce moment-là, c'est notamment et largement... Ça aurait dû être fait avant. Blum, il a essayé et il n'a pas pu parce que le Sénat, qui était très conservateur à ce moment-là, il était hostile. Mais c'est le rôle des femmes dans la résistance qui a amené le général de Gaulle et Yvonne à donner le droit de vote aux femmes, enfin, au lendemain de la guerre. Et puis, 20 ans après, ce que peu de gens savaient, ou voire personne, en dehors peut-être de la famille, c'est ce qu'on explique dans ce livre, c'est elle qui a convaincu le général de Gaulle d'accepter la pilule. Lui, il ne voulait pas l'entendre parler, il disait les femmes vont devenir des machines à faire l'amour, la France, avec ses grandes phrases, ça va être un bordel généralisé, la chienlit, etc., etc. Et c'est Yvonne de Gaulle qui lui a dit, non, Charles, c'est pas possible, vous pouvez pas refuser ça, il y a quand même des avancées qui doivent être faites, et voilà. Plus beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a aussi l'aspect, pour des raisons familiales, parce qu'ils ont une fille qui était handicapée, oui, qui a été le grand malheur de Charles et d'Yvonne de Gaulle, leur fille Anne, qui est morte quand elle avait une vingtaine d'années. Et donc, Yvonne a beaucoup lancé des actions en faveur des handicapés, et pas seulement le handicap dont souffrait leur fille. Donc voilà, on avait envie de réhabiliter toutes ces femmes, en expliquant, parce que c'est un livre féministe, mais en expliquant qu'on aimerait bien un jour...
Jamais souvent, sans eux.
Oui, bah oui, parce que, mais aujourd'hui, si on voulait faire jamais sans eux le rôle des compagnons, des maris, des pères, etc., auprès des femmes qui dirigent la politique française, on aurait du mal à arriver au doigt d'une main. Voilà, même sur cette période. Donc on part de Napoléon, comme pour l'Élysée, ou comme pour les flingueurs d'ailleurs, on parle de la période. On a choisi de faire ça parce que c'est pas un problème de cohérence. Au contraire, c'est que ça permet de traiter de la diversité des moments politiques, des personnalités, des modes, des siècles, etc. Donc depuis Napoléon et jusqu'à aujourd'hui. Et on ne le savait pas au départ, quand on a commencé à faire ce livre. On le savait sur deux ou trois personnages, mais c'est apparu d'une manière absolument éclatante. C'est-à-dire que ce qui ressort, c'est le rôle des mères. Mmh. Et on traite d'une grosse vingtaine de grands dirigeants politiques, empereurs comme Napoléon, les présidents de la 5e, quelques-uns avant, des premiers ministres, des présidents du Conseil. On le savait pour deux ou trois d'entre eux. On savait que la mère de Chirac avait joué un rôle essentiel. On savait que la mère de Napoléon l'avait poussé dans son ambition. On le savait un petit peu pour le général de Gaulle, mais ça apparaît quasiment dans 80 ou 90% des cas. C'est-à-dire que vous prenez les hommes politiques d'aujourd'hui, Alain Juppé a été complètement formaté par sa mère qui, depuis le premier jour, lui a dit « tu dois être le premier ». Quand il était deuxième, quand il n'était que deuxième au lycée, il a raconté récemment qu'il tournait autour de chez lui parce qu'il avait peur de rentrer, de se faire engueuler parce qu'il était deuxième. Donc il a été toujours premier partout.
Oui, et quand voilà. Jacques Chirac dit de lui « c'est probablement le meilleur de nous », la mère voilà. dit...
La mère dit à Chirac, parce que Chirac et la mère de Juppé s'aimaient beaucoup et ils se téléphonaient souvent. Et Chirac appelle la mère Juppé, lui dit « vous avez vu ce que j'ai dit sur votre fils, il doit être content ». Et elle lui dit « oui, c'était très bien, mais le probablement était de trop ». Elle était absolument incroyable.
Oui, par rapport à Yvonne de Gaulle, il y a à deux ou trois reprises, elle a essayé de convaincre son mari, donc le général, de revenir à Colombey, les deux églises. Là, elle n'y est pas parvenue.
Non, elle ne voulait pas qu'il se représente en 65. Ouais. Elle était très sceptique, même sur le retour en 58. Elle l'avait envie. Elle le trouvait fatigué. Elle avait envie de l'avoir pour lui à Colombey, les deux églises. Ouais. Mais là, non, mais ces femmes qui influencent et au-delà même, qui formatent parfois des grands hommes politiques, la mère de Gaulle l'a élevée dans l'idée qu'il sauverait la France. Voilà. Alors, quand il avait 10 ans, en 1900, son père l'a emmené sur la grande place de Lille et écouté un discours de Jean Jaurès. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné à De Gaulle l'idée de faire des grands discours en apprenant par cœur, parce qu'il a été fasciné par le fait que Jaurès parlait sans notes. Et il a dit, mais comment il fait pour parler pendant une heure sans notes? Et on lui a dit, mais il apprend ses discours quasiment par cœur, et puis comme c'est un très bon orateur, après il s'enflamme. Donc ce jour-là est née l'idée de générer... Et c'est la mère de Gaulle qui avait dit à son mari, qui lui était assez effacé, tu emmènes Charles, faut qu'il connaisse ça, il sauvera la France. Et le 15 juin 40, il va saluer sa mère avant prendre le bateau en Bretagne pour Londres, enfin pour l'Angleterre. Et il ne lui dit pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne veut pas l'inquiéter, etc. Et elle dit, mais bon, je ne sais pas où va Charles, il n'a pas voulu me le dire, mais je sais qu'il va sauver la France. Et quand elle va entendre, non pas en direct, mais quand le 19 ou le 20 juin, on lui dira, vous avez vu votre fils, hein, il dira, je ne l'ai pas entendu, mais ça ne m'étonne pas. Je sais que voilà. Et malheureusement, elle est morte quelques semaines plus tard, ce qui fait qu'elle n'a pas connu la suite, puisqu'elle est morte, je crois, en fin juin, début juillet 40.
Vous parliez de...
Mais il y a des femmes, pour reprendre ce que vous disiez sur Yvonne de Gaulle, elles ne réussissent pas toujours. Je parlais de la mère de Napoléon, qui l'a complètement formatée dans son ambition. Il y a une anecdote que je trouve absolument extraordinaire, parce qu'elle est typique des deux caractères, de la mère et du fils. Et quand elle trouvait stupide cette idée de couronnement. Mmh. Pourquoi tu veux être empereur? Tu diriges tout, l'armée, tu fais ce que tu veux dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que cette idée un peu baroque d'aller devenir empereur, ce couronnement, on va te mettre une couronne sur la tête, etc. etc. Et il essaie de la convaincre, il ne la convainc pas, et caractère Laetitia de faire. Et elle se venge en disant, puisque c'est ça, puisque je ne réussis pas à te convaincre, tu ne veux pas m'obéir, tu ne veux pas m'écouter, je ne viens pas. Humiliation absolue pour Napoléon, il y a tout le monde, le jour de son couronnement, et elle n'est pas là. Revanche de Napoléon, le lendemain du couronnement, il fait venir le grand peintre officiel de l'époque, David. Il y a, je ne sais plus combien de personnages que David va peindre qui étaient là. Et Napoléon dit, vous peignez ce que vous voulez, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de rajouter ma mère. Et donc, sur le grand tableau de David que vous pouvez voir au Louvre, quand vous y alliez, il y a Laetitia qui... Non seulement n'était pas là, mais ne voulait pas venir. Ouais. C'est une histoire absolument formidable.
C'est souvent, d'ailleurs, juste un mot, des duos fusionnels. C'est le cas de Jaurès, c'est le cas aussi
Philippe Seguin.
De Philippe Seguin. Il y a deux,
Philippe Seguin n'a pas supporté, au sens, je le connaissais très bien en plus, au sens de tout point de vue, mais au sens personnel, la disparition de sa mère. Il ne pouvait pas vivre, sa mère n'étant... Donc sa mère est... morte, je crois, un mois d'octobre. Mmh. Il est mort, lui, au mois de janvier.
C'est ça.
Et pendant trois mois, c'était impossible.
Et quand son père meurt, sa mère lui dit, oui, « Ton père, maintenant, c'est la France. » Et il a 4 ans.
Oui. Ouais. Et elle va l'élever dans une idée d'exigence, mais sans doute excessive, comme la mère de Juppé, ce que je racontais tout à l'heure, était aussi, avait une poigne qui était sans doute excessive. Mais la mère de Seguin, c'était une famille extrêmement modeste. Le père était mort quand Seguin avait 2 ans, pendant la guerre. Et la mère s'est remise à travailler pour arriver à financer ses études et à les faire vivre tous les deux. Mais c'était très, très modeste. Mais elle avait un frère qui avait un commerce et qui avait un peu d'argent et qui proposait d'aider Seguin, de lui offrir des cadeaux. Et quand il revenait avec un cadeau de son oncle, mais même un sac de couchage pour aller camper avec ses cousins, sa mère lui donnait 2 claques et renvoyait le sac de couchage. Tu ne dois rien accepter de personne. Dis-toi bien ça dans la vie. Et quand il a quitté la vie politique et que Chirac, président de la République, lui a dit, maintenant, vous savez que les politiques ne peuvent pas être décorés tant qu'ils sont en activité. Donc maintenant que tu as quitté la vie politique, je vais te donner, bien entendu, la Légion d'honneur. Seguin a dit non. Je ne veux pas la Légion d'honneur parce que mon père ne l'a pas eu. Son père était, quand il est mort, son père était sergent. Il a été très courageux pendant la guerre, mais il n'a pas eu la Légion d'honneur. Et donc, comme son père ne l'avait pas eu et qu'il la méritait, lui, il l'a refusé. Les hommes politiques qui refusent la Légion d'honneur,
c'est assez rare.
À la fin de leur carrière, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Natacha Henry, quelle influence a eu sur vous votre mère? Mais je vais lui demander, la question est pour les deux. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un temps de parole égal.
Ma mère, mais alors parlons de ma mère. C'est bien la première fois que je parle de ma mère en public. Enfin bon, elle n'est pas là, donc je peux dire ce que je veux. En fait, en écoutant M. Duhamel, je pensais aux messages familiaux que peuvent recevoir les enfants de la part de leurs parents. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mère m'avait donné le message transmis un message qui est exactement celui que j'ai retrouvé, toute proportion gardée, pour le livre que j'ai écrit, Les Sœurs Savantes, sur Marie Curie et sa sœur. Donc, en deux mots, Marie Curie était la plus petite de 5 enfants. La grande sœur est décédée assez vite du typhus. On est à Varsovie, l'occupation russe, etc. Et donc, l'autre sœur, qui s'appelle Bronia, va prendre le rôle de l'aînée et elles vont avoir un lien absolu, merveilleux, toute leur vie entière, scientifique, solidaire, amical, affectif et tout ça. Mais donc, du coup, j'ai plongé un peu dans cette histoire de la Pologne de la deuxième moitié du 19e siècle. Ils sont occupés par les Russes tout le 19e siècle. Il y a les Russes qui marchent dans les rues, qui traumatisent tout le monde, qui envoient tout le monde en Sibérie. C'est l'horreur. Et les familles, comme celle de Marie, qui n'est pas encore mariée à Pierre Curie, donc c'est pas Marie Curie, mais Maria Sklodowska, et sa sœur Bronia, elles sont élevées dans cette histoire que les générations précédentes, pour lutter contre les Russes, ont payé en faisant couler le sang, ont perdu la vie, ont tout perdu, et que donc on ne va pas s'en sortir comme ça, je résume, hein, et historiquement c'est un peu plus compliqué, mais bon, et qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Et la génération des parents de Marie Curie va dire aux enfants, le père était prof de sciences physiques dans un lycée, la maman était directrice d'une école de jeunes filles, mais elle meurt de la tuberculose, donc le papa... Grande influence, si vous faites un livre sur les pères, il faut absolument le père de Marie Curie, il a été vraiment super. Et donc, le père de Marie Curie, et toute cette génération, dit à ses enfants, tu dois un jour travailler à l'indépendance de la Pologne. C'est leur rêve, ça arrivera en 1918. Deux, tu vas y arriver parce que tu as dans la tête.
C'est ce que Marie Walewska avait demandé à Napoléon aussi.
Hein. Les pauvres, enfin, depuis 18, ça y est. Donc deux, tu vas y arriver en faisant progresser, lui il était un prof de sciences physiques, donc les sciences en plus à la fin du 19e c'est au-dessus de tout parce que les sciences sont fondées sur des preuves concrètes, on est en plein progrès médical, des ingénieurs, etc. Donc ils sont à fond dans cette histoire de sciences. Donc un, il faut que tu travailles à l'indépendance de la Pologne. Deux, tu n'y arriveras que par ton cerveau et par les progrès scientifiques. Et surtout le message, et donc je rejoins ce qu'a pu m'apprendre ma mère pour d'autres raisons, c'est que il leur dit, et elles ne l'oublieront jamais, ce que tu as dans la tête, on ne peut jamais te le prendre. On peut te prendre ça et ça, on peut prendre ta maison, tes chaussures, ton casse-croûte, mais plus tu en as dans la tête, mieux c'est, parce que ça appartient à toi, quels que soient les événements historiques. Et les deux filles comprennent très très bien ce message, et du coup, elles vont être focalisées sur le progrès scientifique.
Il y a un lien entre vous, la découverte de l'écriture, et précisément le milieu dans lequel vous étiez, je veux dire vos parents. Vous avez écrit très jeune.
C'est tout ce que je sais faire, parce que je frime en faisant un livre sur Marie Curie, mais je ne connais rien en science hein, quand même. Donc c'est vraiment la partie littéraire et historique qui m'intéresse.
Oui, mais c'est venu comment ? C'est venu,
c'est venu parce que oui, j'étais dans un milieu qui pensait qu'écrire des livres, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et puis après, j'ai fait des études d'histoire, je n'ai pas voulu être à 100% dans une bibliothèque. Je voulais vivre ces années 80, donc il y avait des manifs, il y avait des choses dehors, à Paris en tout cas. Je voulais être dehors et puis, j'ai fait une partie de mes études à Londres et là, il y avait, donc on est au début des années 90, un truc qui n'existait pas du tout en France, même ni à la Sorbonne ni à Sciences Po, ils n'en avaient jamais entendu parler, ils ont été très en retard en France, comme souvent sur ces sujets-là. Et donc, à Londres, il y avait un module sur les femmes dans les relations internationales. Donc là, c'était vraiment archi-contemporain, les bordels militaires de campagne, les ouvrières des Philippines, enfin tout un tas. Et je me suis dit, bah, c'est ça mon truc. Effectivement, c'est comme ça je peux mélanger mon goût pour la recherche historique, les archives et tout ça, et puis la vraie vie, comme ils disent parfois vos camarades de la télévision, peut-être pas vous, la vraie vie des vrais gens. Enfin, c'est-à-dire que nous avons absolument des points communs avec Marthe Richard, Marie Curie, etc. C'est-à-dire que le corps vit les mêmes choses, les sentiments humains ne changent pas avec les époques, et que donc il y avait une espèce de pirouette à faire comme ça que j'essaye de faire.
Je viens à la question que je voulais vous poser aussi, Patrice Duhamel. Que devez-vous, enfin, quelle influence a exercé votre mère ?
Très, très importante. On était cinq frères et sœurs, dont Alain. Famille de médecins. Mais elle nous a toujours dit à la fois, en gros, vous ferez ce que vous voudrez, mais il faut être exigeant vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et puis après... mais très présente, donc effectivement tout à fait essentielle dans la famille et pour moi en particulier.
Très à gauche ?
Assez à gauche, oui.
Oui ?
Oui, absolument. Un père plutôt centriste et une mère plutôt à gauche. Donc j'ai un souvenir d'un déjeuner familial le lendemain de la démission du général de Gaulle après le non au référendum, qui était assez agité, c'était assez drôle. Voilà. On a été un peu élevés là-dedans, parce que les aïeux étaient des parlementaires de la Troisième République, etc., etc. Donc il y a quelque chose dans la famille autour de la politique et maintenant des médias. Mais vraiment, j'insiste sur ce livre. L'idée de départ, c'est... Je ne dis pas ça par circonstance, parce que j'ai la chance d'être à côté de vous, mais vraiment la manière dont sont traités, ce serait excessif, mais dont on parle des femmes dans le milieu politique, dans l'histoire politique, est à mille lieues de la réalité. Et donc je tenais absolument à ce qu'il y ait une espèce de réhabilitation, j'allais dire générale. Mais quand vous traitez ce sujet-là aujourd'hui, j'en parlais avec quelqu'un là, qui est venu nous chercher gentiment à l'aéroport ce matin. Il y a un truc en France absolument hallucinant en ce moment. Vous avez une primaire de la droite et du centre. On aime ou on n'aime pas Nathalie Kosciusko-Morizet. Mmh. C'est une fille originale, intéressante, on est d'accord, pas d'accord avec elle. Bon. Mais c'est hallucinant de penser que en dehors de, je crois, Juppé, mais les autres, et peut-être Fillon, mais tous les autres, Sarkozy le premier, ne veulent absolument pas qu'elle soit candidate, même pas pour témoigner, pour donner deux ou trois idées, même si c'est pour les combattre immédiatement. Donc on risque, j'espère, je ne suis pas du tout un fan d'elle quand même particulièrement, je la connais un petit peu, elle est très, très intelligente et très... Voilà, mais puis mes convictions politiques personnelles n'ont aucun intérêt. Mais simplement... c'est insensé qu'il y ait aujourd'hui 90% de chances que, sans doute, le futur président de la République, puisque c'est comme ça qu'en tout cas se présentent les choses aujourd'hui, que le vainqueur de cette primaire serait le vainqueur de l'élection dans 7 ou 8 mois, on risque de se retrouver avec 5 hommes compte tenu de l'influence des femmes dans la vie politique française. Parce que il y a l'influence auprès de leur mari, de leur fils, de leur frère, de leur oncle, de leur père, parce que le père, Claude Chirac, a joué un rôle absolument essentiel auprès de... Mazarine Pinjot, quand elle a, à partir de 12-13 ans, elle a joué un rôle majeur auprès de son père. Voilà, donc toutes ces femmes dont on parle peu ou quasiment pas, je trouve que voilà.
Donc beaucoup de femmes invisibles, pour reprendre votre expression.
Oui.
Quelle part de votre point de vue, quelle part de responsabilité, peut-être aussi des médias finalement. Parce que ce que dit Natacha Henry, pour avoir fait beaucoup de radio, je peux vous le dire. Moi, j'avais une émission quotidienne, et lorsque j'appelais une femme en lui disant « voilà, j'aimerais vous inviter », généralement, cette femme, dans un premier temps, me disait « ah non, non, mais moi, je ne peux pas venir parce que je n'ai rien à dire, etc. Je pense effectivement que mon mari ou le responsable de l'édition, etc., c'est mieux. » Et je la convainquais finalement de venir. C'était aussi ma responsabilité, c'est-à-dire, quelque part, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais de la rassurer. Parce qu'on est dans cette situation-là. Donc c'est dire que nous avons, nous, le privilège et la responsabilité aussi du choix. Alors, ces femmes, entre guillemets, invisibles, qu'on voit effectivement ou qu'on entend relativement peu...
Elles ne sont pas toutes invisibles. Hein.
Non, je n'ai pas dit toutes.
Je parle de Simone Veil, que je connais très très bien. Enfin, elle est fatiguée maintenant,
oui.
Je la vois moins, mais je l'ai très très bien connue. C'est une femme toute extraordinaire. C'est une lumière, cette femme. Quand vous la voyez comme ça, c'est une espèce de phare, c'est extraordinaire. Elle a influencé quand même 3 présidents de la République successifs, donc elles ne sont pas toujours invisibles. Simone Veil a fait bouger la société française sur des choses, pas seulement sur l'avortement, mais sur l'Europe, sur des réformes sociales, etc. etc.
Donc, non, j'en suis d'accord.
C'est vrai qu'elles sont pour la plupart invisibles.
C'est ça que je veux dire. Si vous prenez la liste d'invités de talk show, par exemple, en radio, qu'en télévision, il y a une très forte proportion d'hommes par rapport, pourcentage d'hommes par rapport au nombre d'invités femmes.
Alors, moi, j'ai été longtemps à l'Association des femmes journalistes et on comptait Parce qu'on avait un peu ce sentiment là, mais quand vous donnez des chiffres, tout de suite, tout le monde dit ah bah ouais quand même. Et donc
il y en a beaucoup plus maintenant.
Maintenant il y en a beaucoup plus. Et en plus il y a Internet, donc les infos elles arrivent différemment. Mais à cette époque, donc il y a 10-15 ans, on prenait le Monde, Libé, hein, et on faisait, on entourait d'un stylo rose les noms de femmes et d'un stylo bleu les noms d'hommes. Et on est arrivé, je sais pas, 10 ou 15 ans de suite, on est arrivé à une proportion de 80-20. Enfin, et on a remarqué que les femmes étaient là quand elles étaient victimes d'une situation, qu'elles organisaient la survie suite à une catastrophe naturelle, qu'elles étaient en lien avec un gangster ou je sais pas quoi, mais rarement. Pour... Et donc, heureusement qu'il y a des gens comme vous deux qui sont maintenant conscients de, ce, de cette nécessité de la parité. Nous, on a beaucoup bossé là-dessus.
Et longtemps dans la vie politique, que ce soit dans les gouvernements, à l'Assemblée, au Sénat, dans les conseils municipaux, etc., les femmes qui commençaient à percer, elles étaient chargées de l'enseignement scolaire, des maternelles, de la santé éventuellement. Les premières femmes qui sont entrées dans des gouvernements, il y avait d'ailleurs Irène Joliot-Curie.
La fille de Marie Curie.
La fille de Marie, mais elle était
1936,
chargée de la recherche scientifique. Pour des raisons évidentes. Mais les autres, il y a eu trois autres femmes qui étaient, d'ailleurs, n'étaient pas ministres. Elles étaient sous-secrétaires d'État. Sous-secrétaires d'État.
On est en 36, hein, ça va doucement en France. Hein,
d'accord. Sous-secrétaires d'État, c'était l'enseignement scolaire, des choses comme ça. Dans les conseils municipaux, le climat et le réflexe, c'est de leur confier.
Les affaires sociales.
Voilà, les affaires sociales.
Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et en fait. Je trouve que c'est pas mal de traiter des sujets d'enseignement scolaire et des affaires sociales.
Pas seulement.
Non, mais je pense qu'il ne faut plus considérer certains sujets comme étant très très sérieux, comme l'économie ou les finances. Et puis que le social et le scolaire, c'est un peu plus futile et donc ça va aller aux dames. Je pense que, enfin, si vous êtes en contact avec des profs de profs du scolaire ou les assistantes sociales et tout, en fait, pour ma part, je pense que maintenant le cœur de la nation française, je parle, c'est pas dans mon vocabulaire normal ça, mais enfin, le cœur de la nation française se trouve chez les profs du secondaire surtout, dans les collèges, et vraiment, si je peux rendre hommage aux assistantes sociales de terrain, c'est vraiment des gens qui sont au cœur de la construction quotidienne de l'amélioration de la société française qui va pas très bien en ce moment. C'est pour ça que je fais de l'histoire. D'ailleurs.
Non, mais on est clairement une grande démocratie. On est clairement en retard d'une ou deux générations. Vous regardez autour de vous, je parle pas de ce qui va se passer aux États-Unis. J'espère bien que c'est Hillary qui va gagner. Mais la première ministre britannique est une femme, la chancelière allemande est une femme. Il n'y a que ça autour de nous. Nous, à Matignon, on a eu Edith Cresson. Alors, c'était très bien de nommer une femme, sauf que Mitterrand ne l'a pas préparée à être Premier ministre, donc ça ne s'est pas bien passé. Il y a dans le... Vous parliez du bouquin sur les cruautés politiques tout à l'heure, on raconte cette anecdote. Mitterrand, qui était d'une cruauté et en même temps d'une finesse dans ses attaques et dans ses critiques et dans ses attaques personnelles incroyables. Deux mois après la nomination d'Edith Cresson, qui est restée à Matignon, que je crois 9 ou 10 mois, il a dit « J'avais conseillé à Edith de ne pas hésiter à être impopulaire pour faire ses réformes, je ne pensais pas qu'elle m'obéirait aussi vite. » Voilà. Et ça a été une expérience terrible, voilà. Mais c'est quand même insensé que sur 60 ans de 5e République, il n'y ait pas eu une femme Premier ministre, qu'il n'y ait eu qu'une femme Premier ministre et pendant 9 mois. Voilà. Et même elle, qui n'a pas été, et qui n'a pas un bilan exceptionnel, mais qui est une femme intelligente, volontaire, etc., je pense... sans en rajouter, que si ça avait été un homme, il serait pas resté 8 ou 9 mois. Il serait quand même resté un peu plus longtemps.
Vous vous souvenez des nuits au cours desquelles votre maman vous attendait au bas de l'escalier à 3 heures du matin ?
Oui, très bien. Oui. Ah non, parce que je rentrais un peu tard de temps en temps. Voilà, non, mais très, très, très exigeante, en effet.
Très exigeante.
Oui, absolument. Ouais.
Comment avez-vous travaillé avec Jacques Santamaria pour ce livre ? Je veux dire, vous avez écrit à quatre mains.
Non, on se répartit les, comme on le fait sur là on va sortir en début de l'année prochaine une nouvelle édition, mais très différente du bouquin sur l'Élysée pour le début de la campagne. On se répartit les chapitres selon connaissance et affinité. Mmh. Bon, lui, c'est un grand spécialiste du général de Gaulle. Il connaît sa famille, etc. Donc, il s'est chargé de ça. Il connaît très bien également Napoléon, par exemple. Moi, les présidents ou les premiers ministres de la Ve République, en dehors du général de Gaulle, parce que je suis quand même expérimenté, entre guillemets, mais pas à ce point-là, mais je les ai tous connus, voire très bien connus, leurs femmes, leur mère de temps en temps, oui, pour certains d'entre eux.
Par vos responsabilités médiatiques.
Bah, d'abord comme journaliste politique,
oui.
ou comme patron de ouais. médias, de Radio France, de France Télévisions, etc. Et voilà, on s'est répartis avec des... Moi, par exemple, j'ai un faible pour l'histoire... et c'est pas... je ne parle pas là des convictions politiques, mais... l'histoire de Léon Blum et de ces trois femmes dont on parle longuement dans ce livre, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu trois grandes périodes de Léon Blum. Il y a la période où il est normalien, critique littéraire, un peu dandy, etc. Ensuite, il y a la période où il se lance vraiment dans la politique du Front populaire. Et puis ensuite, il y a la guerre, le procès de Rion. Il est... déporté dans une maison à côté de Buchenwald, etc. etc. Et à ces trois périodes correspondent trois femmes qui seront ses trois épouses successives, les deux premières étant mortes de maladie. Hein. Ce n'est pas des divorces, des séparations, etc., etc. Donc la première était totalement dans le milieu artistique, donc correspondant à cette période d'Andy. La seconde était Thérèse, était une militante... politique, elle était à côté de lui quand il formait le gouvernement du Front Populaire, comme vous êtes assise ici, je veux dire, ils faisaient le gouvernement ensemble. Elle allait au meeting à côté de lui, elle levait le poing. Et la troisième, qui est une femme absolument extraordinaire, qui est assez peu connue, qui avait plus de 20 ans de moins que lui, quand il a été déporté avec Mandel dans une maison à côté de Buchenwald, qui était une petite maison en bois, qui était l'ancien relais de chasse de Himmler, ça donne envie. Hein, voilà. Et elle a fait des pieds et des mains, elle est allée au siège de la Gestapo à Paris, elle est allée voir l'horrible Laval, etc., et parce qu'elle voulait rejoindre Léon à Buchenwald. Et à ce moment-là, ils savaient parfaitement l'un et l'autre qu'il y avait de grosses chances qu'ils n'en reviennent jamais. Et elle a fini par réussir à le rejoindre là-bas. Ils sont mariés à Buchenwald. Et après, c'est elle qui l'a convaincu, quand ils sont revenus en France, de redevenir ce qu'on a parfois oublié. Il est redevenu pendant quelques mois président du Conseil, parce qu'à l'Élysée, il y avait l'un de ses grands disciples qui était Vincent Auriol et qui l'avait appelé à former le gouvernement. Et cette troisième, Jeanne Blum, est une femme à un destin absolument extraordinaire. Après, il a disparu. Elle a continué à faire vivre sa mémoire dans leur maison de Jouy-en-Josas, qui va bientôt devenir un musée Blum. Et puis, elle a toujours été en avance sur son temps, sur énormément de choses, le féminisme, etc. Et le jour de ses 80 ans, elle s'est suicidée. Elle était malade pour éviter que sa famille, ses enfants, etc., n'aient à subir sa déchéance physique, etc. C'est une femme...
On reviendra tout à l'heure sur, par exemple, un des chapitres de votre livre consacré à André Malraux, où on voit combien la femme a joué un rôle déterminant, finalement.
Les femmes, parce qu'il y en a
beaucoup.
Oui,
mais je dis la femme parce que, voilà, la femme et les femmes... Il n'y en a pas qu'une, effectivement. Mais
et lui, ce n'était pas sa mère, c'était sa grand-mère.
Exact, voilà. Mais on en reviendra tout à l'heure. Ce qui me frappe aussi dans le destin, dans la vie de Marthe Richard, Natacha Henry, c'est combien tout est cohérent dans sa vie, du début jusqu'à la fin, avec une chose très claire, c'est que cette jeune fille qui est née en Lorraine, dans un milieu pauvre... Dès son plus jeune âge, dès son adolescence, elle n'a qu'un désir, c'est s'en sortir.
Là où vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important quand on écrit une biographie, comme vous venez un peu de l'exprimer, c'est que vous vous demandez si la vie humblement, hein, parce que qui on est pour juger, mais enfin, vous vous demandez quand même si la vie de cette personne est cohérente. Alors, toutes les vies sont cohérentes, on fait ce qu'on peut, mais si elle est constituée de continuité ou de rupture. Hein. Et c'est, dans le cas de Marthe Richard, c'est assez compliqué, parce que géographiquement, socialement, dans ses activités, il y a des vraies coupures. Il y a des dates, elle est là, et puis elle est là, et puis elle fait ça. Et donc, Marthe Richard, elle avait été victime de la prostitution et donc elle avait eu la syphilis et on le sait. Moi, je n'aime pas du tout faire de l'histoire indiscrète, j'ai horreur de ça, mais ça, on le sait historiquement, puisque à l'époque, elle a été encartée, c'était obligatoire. Et pourquoi elle en est arrivée là ? Parce que il y a un décret du ministère de la guerre de 1903 qui dit que quand un soldat est contaminé par la syphilis ou une autre maladie vénérienne grave, il est obligé, il est tenu de dénoncer la dame, parce qu'il pense toujours que c'est hétérosexuel, n'est-ce pas ? Donc la dame qui donc est à l'origine de cette contamination. Donc bien évidemment que les gars disent toujours le nom d'une prostituée. Parce qu'on va quand même pas... Bon, donc voilà. Et c'est comme ça que Marthe Richard a été, qui s'appelait à l'époque Marthe Bettenfeld, a été dénoncée par un des soldats qui avait la syphilis. En effet, elle avait la syphilis. Donc, quelque part, heureusement qu'il l'a dénoncée, ça lui a sauvé la vie. Mais ces 3 mois d'hospitalisation, c'est très long, c'est très compliqué. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Elle se tape une expérience pareille. Et puis aussi avec ça, avant, pendant, peut-être pas pendant, mais après, avant et après, l'expérience de la prostitution sur les trottoirs. Donc ça veut dire X clients par jour. Donc le corps d'une adolescente ayant subi tout ça, c'est pas vraiment la joie après, quoi. Hein. Comme disait Benoît de Groult, que j'aimais beaucoup, les filles de joie, ben la joie de qui ? Bon, alors voilà. Hein. Donc c'est ça qui s'est passé. Ensuite, elle veut être pilote, elle passe son brevet et elle a un accident grave d'avion. Elle est 3 mois dans le coma. La presse la laisse pour morte. On a très peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes aviatrices. Hein, donc on parle d'elle en 1913 et puis elle s'en relève encore. Et donc moi, je pense que le corps étant politique, au sens de qu'est-ce qu'on fait de l'expérience de notre corps ensuite dans nos actions politique, intellectuelle, associative, etc., etc. Et dans son cas, c'est très clair. C'est qu'elle a opéré une distanciation. Elle a raconté partout qu'elle était frigide, qu'il ne fallait pas coucher avec les garçons, que c'était une horreur absolue. Elle en a quand même épousé un sympa. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais effectivement, quand après la guerre, donc sur la dernière ligne droite de la Deuxième Guerre mondiale, elle se retrouve, je vous passe les détails, c'est dans le livre, mais enfin sur une liste de la résistance. Bon. Donc, comme vous l'avez dit, les femmes sont éligibles, elles peuvent voter, mais elles sont aussi éligibles. Donc, elles se retrouvent élues au Conseil municipal de Paris en 1945. La fédération abolitionniste, qui avait déjà essayé 50 fois de faire fermer les maisons closes, se dit, puisque c'est une héroïne d'avant-guerre, et qu'elle sait parler en public et tout, on va lui confier le sujet, et elle demande la fermeture des maisons closes sur Paris au départ, parce que c'était par municipalité. Mais pourquoi le sujet lui tient à cœur ? Parce qu'elle sait ce que c'est. Alors, elle n'a jamais dit en public, alors moi, j'étais sur le trottoir, je vous explique. Pas du tout, pas du tout. Mais elle a transformé en expérience politique et en discours politique, si je puis dire, son expérience personnelle du corps malheureux. Et en ça, elle a un lien qu'elle n'exprimera jamais, parce que tu racontes pas dans les dîners en ville que tu étais prostituée, donc elle l'a jamais fait. Mais elle a, à l'intérieur d'elle, cette expérience qui lui donne une solidarité, parce que elle est pas, à part ça, elle n'est pas très féministe. Hein, on ne la retrouve pas du tout dans les années 60-70 sur les combats de contraception, avortement, tout ça. Elle n'est pas du tout. Elle est même très, très réac à la fin. Mais dans cette période-là, elle est absolument convaincue que les femmes en mésoclose sont en prison et qu'il faut que ça s'arrête. Et elle avait raison.
Elle a beaucoup écrit.
Oui, parce que bah, elle a gagné sa vie comme ça. Elle faisait des conférences. Après, elle a signé quelques livres. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidée parce que comme elle a fermé les maisons closes et que l'histoire n'est pas écrite par les pauvres, n'est-ce pas ? Donc, les prostituées qui étaient enfermées dans ces maisons, il y en a qu'une qui a écrit un témoignage en 1947 dans les temps modernes, un texte pas très long qui a été recueilli par sûrement quelqu'un des temps modernes. Mais il n'y a pas quantité de livres qui disent ah, bah, moi, oui, effectivement, voilà ce que j'ai subi en maison close dans cette période de la guerre. On ferme en 1946, pas du tout par souci de santé et morale et physique de ces jeunes femmes, et pas seulement jeunes, mais parce que c'était, pour résumer la situation, des foyers de collabos, ils ont ouvert les portes aux Allemands, etc. Donc évidemment, en 1946, ça suffit comme ça. Et on ferme, c'est pas tellement pour faire plaisir à Marthe Richard, ni pour sauver ses esclaves, mais c'est pour nettoyer après la guerre. Et donc, Effectivement, les textes qu'on a eus après ça, c'est des grands romanciers qui étaient très nostalgiques, qui voulaient, moi à chaque, je peux pas sortir sans qu'on me dise, faut quand même rouvrir, hein, ça serait mieux. Ah, et donc ils veulent des velours rouges, ils vont rencontrer le ministre et le notaire et le truc en buvant du champagne. Les filles, elles sont toutes consentantes, elles ont 20 ans, elles sont blondes, elles sont belles, elles sont merveilleuses. Bon, c'est de la légende, donc ils ont construit ça à fond. Moi, j'ai retrouvé les témoignages des médecins, quand même, qui visitaient ces maisons closes juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a des ruses pour masquer les maladies vénériennes. Ces filles sont quand même à risque de mort, en tout cas de stérilité, etc., de frigidité, machin. C'est une horreur totale. Mais il y a une légende qui a été construite par des réalisateurs, des romanciers, que c'était merveilleux tout ça, et que cette Marthe Richard, c'est une vieille frustrée, hystérique, comme souvent les féministes, et que, mais enfin bon, en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu comprendre pourquoi elle avait quand même été très sincère dans ce combat-là, et j'ai fini par comprendre que elle ressentait de l'intérieur d'elle-même ce que pouvaient ressentir ces femmes, et en plus, alors elle, pour revenir à sa maman, à elle. Elle n'avait pas une histoire familiale très chaleureuse, la pauvre Marthe Richard. Mais en tout cas, sa maman, au fin fond de cette banlieue ouvrière de Lorraine du 19e siècle, a voulu qu'elle soit couturière parce qu'elle lui a dit « Tu pourras travailler à la maison et tu n'auras jamais un patron sur le dos. » Disons, alors disons, fallait le faire quand même. Et du coup, je pense que ce message, elle l'a entendu parce qu'effectivement, la liberté, vous voyez, hein, où elle est la porte, que je sorte et que je fasse et tout ça, ça c'est, je trouve que c'est cohérent avec la fermeture des maisons closes, c'est-à-dire que sa vie entière, c'est son corps, sa liberté, son indépendance, et elle a permis à ces femmes que ce cauchemar cesse.
À une certaine époque de sa vie, vous écrivez ceci, Marthe rêvait de combattre dans un avion plutôt que dans un lit à baldaquin. La France lui a proposé le sexe.
J'adore qu'on fait ça. Oui, parce qu'effectivement, elle voulait être aviatrice pour la France. Elle a fait une association des femmes aviatrices, patriotes. Elles ont supplié le ministre de la guerre. Il a dit non, 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 pas de femmes, pas de femmes, pas de femmes. Donc, ils lui ont dit, les renseignements généraux lui ont dit, vous partez en Espagne. Alors, moi, je pense que l'histoire de Marthe Richard aurait été complètement différente si on lui avait dit, mais bien sûr, vous êtes pilote, vous avez je ne sais pas combien de preuves de ça. Maintenant, voilà un avion et allez vous battre contre l'Allemagne comme vous le voulez. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, on ne dit pas la même chose aux femmes qu'aux hommes. Le destin n'est pas le même jusqu'à maintenant. On essaye un peu plus, mais enfin, à son époque, on est... C'est des décennies avant le droit de vote, donc ils lui ont dit non, et du coup elle se retrouve en Espagne à infiltrer les milieux chics dans, bon, alors évidemment pendant ce temps il y avait d'autres veuves de guerre qui nourrissaient des gosses dans des coins paumés, qui crevaient de faim, les mecs sont morts à la guerre, les frères, les pères et tout. Marthe Richard, elle buvait du champagne dans un grand hôtel en Espagne. Bon, c'est vrai qu'elle devait subir les assauts de cet Allemand tous les soirs et que ça devait pas être très marrant, mais enfin
il n'a pas l'air.
Les draps étaient
hein.
Propres, quoi. Enfin, bon.
Le portrait que vous en faites de cet Allemand, c'est pas un nom.
Bah, au moins, il n'y en avait qu'un, je veux dire. Et puis, il a été assez sympa.
Oui.
Il était riche, c'était vieille mode, hein. Donc les bijoux, les trucs, enfin, bon, elle avait besoin d'argent, il l'a entretenu. Enfin, bon, c'est pas génial, mais c'est comme ça qu'elle s'en est sortie. Et dès qu'il avait le dos tourné, elle trafiquait le coffre-fort pour choper des informations. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte de lui, ce qui était faux, et qu'elle devait aller se faire avorter en France. Et donc, pour remonter le chemin par les Pyrénées, parce que c'était la guerre, et donc, il lui a dit comment faire. Et c'était en fait quelque chose que les renseignements français, dont ils avaient besoin, quoi. Donc, elle a inventé ce stratagème, et elle s'est fait, elle, toute seule, là, le chemin comme ça, et pour arriver... En le baratinant. Donc elle a quand même s'est fait d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Ils ne sont pas aussi folkloriques qu'on a bien.
Alors précisément, ça a été une bonne espionne de votre point de vue et d'après ce que vous avez pu voir dans les documents que vous avez consultés.
Oui, franchement, elle n'avait aucune éducation diplomatique. Ils lui ont appris à lire l'encre. Comment ça s'appelait l'encre
sympathique.
Voilà, c'est ça. Donc ils lui ont donné quelques. C'est génial. J'ai retrouvé tous les manuels de l'apprentissage du parfait espion dans la Première Guerre mondiale. c'est vraiment super parce que nous on est là avec Internet, les trucs et tout, mais à l'époque c'était vraiment. C'est joli, quoi, et c'est artisanal, mais en même temps, c'est très sérieux, oui. Mais les femmes ont payé une histoire folklorique, légère. La pauvre Mata Hari, qui était dans le même hôtel qu'elle, en train de faire à peu près la même chose pour le camp adverse, elle a payé de sa vie, parce que, voilà, c'est ça qu'ils en font, quoi. Donc je trouve qu'il était temps de montrer que Marthe Richard avait quand même d'abord les pieds sur terre, deuxièmement une certaine force de caractère, et que, alors elle n'était pas la plus grande force politique de toute la planète, mais avec ce qu'elle avait, elle a bien fait son travail d'espionne.
C'est un personnage qui vous a fasciné.
Oui, je l'aime moins que Marie Curie.
Oui.
Beaucoup moins, parce que quand vous traitez Marie Curie ou sa sœur, ce sont des personnages extraordinaires, irréprochables, intellectuels et tout. Marthe Richard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle se retrouve à Vichy, tout ça. J'ai été très, très embêtée quand même. Hein. C'est pas l'héroïne qu'on puisse espérer, mais j'ai eu la chance de rencontrer son arrière-petit-neveu, qui a des malles plus grandes que cette table, remplies d'archives. C'est sa passion. Le type, il est prof d'histoire dans un collège à Bordeaux, et tout son temps, toutes ses vacances, c'est de chercher des choses sur Marthe Richard. Et donc, on a échangé pas mal de choses, et il m'a mis sur certaines pistes. Et donc, son hypothèse à lui, c'est qu'elle se retrouve à Vichy en 40, parce que son deuxième mari était anglais, britannique, en 1926. Il est mort au bout de 2 ans, mais du coup, elle n'était plus française. Elle n'était que britannique. Et donc, d'après cet arrière-petit-neveu, qui a fait la postface du livre, elle était de nouveau toute seule au monde, veuve, à 50 ans, c'est pas 25, et elle n'est que britannique, et c'est la guerre. Et donc, son obsession absolue, c'est de redevenir française. Et donc, elle va, pour être protégée. Et donc, elle va à Vichy, et elle va coucher ou pas. Alors, tout le monde doit toujours coucher dans les histoires de femmes. Moi, je crois pas. Mais ils écrivent beaucoup les histoires comme ça. Donc, moi, je crois pas. Mais avec le ministre de la Justice de l'époque, pour essayer de récupérer une nationalité française qu'elle ne récupérera jamais. Mon hypothèse à moi, c'est elle était seule, elle avait un peu d'argent, elle avait 50 ans seulement, elle avait plus rien à perdre, elle était britannique. Pourquoi n'a-t-elle pas
été à Londres ? C'est dommage qu'elle soit pas restée à Londres. Oui.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un... Mais vous pouvez pas que aimer entièrement vos personnages.
Oui. Je reviens vers vous, Patrice Duhamel, jamais sans elle. Toutes ces mères, quel est leur point commun ?
L'ambition pour leur fils. Et c'est souvent d'ailleurs, quand il y a des familles nombreuses, le fils, évidemment, quand je dis évidemment, c'est évident pour les frères et sœurs, le préféré. Napoléon, Mitterrand, De Gaulle, etc. Sarkozy. Contrairement à ce qu'on a dit, c'était le fils préféré aussi.
Sa mère, c'est Dadou.
Dadou, oui. Son surnom.
Son surnom, oui.
Oui, absolument. Une femme très, très, très forte, très, très attachante, et qui a une qualité tout à fait hors norme, très particulière, c'est qu'elle a 3 fils, donc Nicolas et ses 2 frères. Et elle insiste énormément, en tout cas pendant le quinquennat de Sarkozy, pour toujours que les 3 soient au même niveau, ne pas trop distinguer celui qui a été élu président de la République. Mmh. Et il l'a emmené une fois dans un voyage officiel à Pékin, et la mère de Sarkozy était à côté de lui, et il la présente au président chinois, qui dit, très président, diplomate, qui dit à la mère de Sarkozy... Bonjour madame, je suis très heureux de faire votre connaissance. Comme vous devez être fière d'avoir un fils président de la République. Et elle lui répond, mais monsieur, j'en ai 2 autres qui sont très bien aussi. Voilà. C'est une de ses caractéristiques, mais c'est une femme très, très forte qui a eu beaucoup de mérite et qui l'a élevée dans l'idée de la poigne. Mais elle a gardé son sens critique vis-à-vis de lui. Et Dieu sait qu'il le justifie. Mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle.
Donc, l'ambition.
L'ambition.
Ça, c'est la première chose.
L'ambition.
Et ensuite, je veux dire, est-ce que c'est... Il y a une crainte de l'échec
Y a un point commun, non pas de toutes, mais d'un certain nombre de ces mères, qui est... Parce que l'ambition, elle est c'est pas forcément l'ambition politique. Non. Ça peut être l'ambition... médicale, diplomatique, militaire, littéraire, artistique, etc. etc. Quand la carrière politique commence et se développe et s'enflamme, pour certaines d'entre elles, et même un certain nombre, la peur que leur fils va devoir affronter, ce qui a été l'objet du livre précédent, la cruauté politique. Ça a été vrai pour Juppé, c'était vrai pour Seguin, c'était vrai pour Bayrou, c'était vrai pour Giscard, c'était vrai pour Chirac. Voilà, Juppé, ça, je le disais tout à l'heure, sa mère était d'une exigence incroyable, mais elle aurait préféré qu'il soit professeur de un grand professeur de médecine ou un grand diplomate. Il y a un chapitre sur Robert Banater, dont la mère était un personnage extraordinaire, Charlotte Banater, d'une force qui a émigré en France venant de la Russie tsariste, des pogroms, qui a traversé toute l'Europe quand elle avait 11 ou 12 ans, qui ensuite a brillantissime, d'une intelligence extraordinaire, d'une famille pauvrissime. En 6 mois, elle a appris le français quand elle avait 12, 13 ans, etc. Et elle a élevé Robert et son frère. Et elle voulait surtout pas qu'il fasse de la politique, par exemple. Elle était très contente que ce soit un grand avocat. Ça lui convenait tout à fait. Elle a une autre caractéristique qui est peu répandue, la mère de Banater, c'est que elle avait une passion absolue pour lui, donc l'ambition, la réussite, etc. Mais elle était en désaccord à peu près sur tout en politique. Elle était très gaulliste et supportait pas Mitterrand. Donc son fils étant l'un des meilleurs amis et le ministre de Mitterrand, c'est génial. Elle était favorable à la peine de mort. Alors quand même, Banater sera resté comme tout à fait légitimement comme celui qui a aboli la peine de mort. Donc il m'a raconté que les discussions étaient franches.
Précisément, il m'a raconté, comment avez-vous travaillé ? Je veux dire, vous avez rencontré
ceux que je pouvais voir, je les ai vus. Oui. Et puis je savais beaucoup de choses. Et pour les plus anciens que je ne, voilà, c'est des livres, voilà. De manière classique. C'est pas voilà. Non, simplement, c'est vrai que il y en a. Un certain nombre que je connaissais au-delà de relations journalistes, c'était pas des amis intimes, mais que je connaissais. Chaban, par exemple, que c'était un type formidable, que je connaissais très très bien, Chaban. Donc ça, c'est ma période tennis, parce qu'il jouait au tennis. Moi,
je joue au tennis. D'accord.
J'étais en équipe de France de tennis, etc. Donc je le connaissais très bien par le tennis. Et donc il m'avait parlé de sa mère, de ses femmes successives, etc. Et je savais Chaban, sa mère lui a dit un peu ce que la mère de Seguin avait dit à Philippe, et lui disait je suis ta mère, je t'adore, mais n'oublie pas que ta vraie mère, c'est la France. C'est dur à porter, hein, vous entendez ça. Moyennant quoi, à 28 ans, il était général de brigade, le plus jeune général français pendant la guerre.
Le couple Badinter, Robert Badinter et Elisabeth Badinter, c'est un couple très complémentaire,
parce qu'elle n'a jamais fait de politique active, bien qu'elle se passionne pour la politique, mais ils sont à peu près d'accord sur tout quand même, surtout leur grand combat, l'égalité homme-femme, la laïcité, etc. Et c'est des combats sur lesquels ils sont tout à fait d'accord. Mais c'est un couple absolument extraordinaire. Ouais. Mais la famille, la mère Charlotte Banater et ses deux enfants, leur père est mort, a été déporté, et il n'est jamais revenu des camps. Et elle a été d'une force, d'une énergie. Il m'a raconté des anecdotes qui sont dans le livre. Quand il y a un Allemand, sans doute envoyé par l'ambassade, qui est venu la voir 6 mois ou un an après la fin de la guerre pour voir comment il pouvait être indemnisé, etc., etc. Elle l'a laissé parler et il a lancé des chiffres et elle lui a dit « Monsieur, je ne parlerai pas d'argent tant que je ne vous aurai pas rendu mon mari, qui n'est jamais revenu des camps. » Et pendant plusieurs semaines... à la fin de la guerre, c'est une histoire. Si je fais un peu de scénario de film de fiction politique, mais très basé sur le réel, mais j'aurais écrit ça dans un scénario, ce que je vais raconter, on m'aurait dit, faut pas exagérer quand même, là vous en rajoutez vraiment. C'est une histoire vraie. Le matin, la mère des Badinter, des deux frères, allait à l'hôtel Lutetia, où arrivaient ceux qui avaient la chance de rentrer. Pour voir si elle avait des nouvelles de son mari. Elle ne le disait pas à ses fils. Et eux, tous les deux, qui étaient tous les deux au lycée, ils avaient 2 ans d'écart, quand ils sortaient du lycée, je crois que c'était Janson de Sailly, ils allaient, sans le dire à leur mère, à l'hôtel Lutetia pour savoir s'ils avaient des nouvelles de leur père. Et ils n'en parlaient jamais, puisque la mère ne le disait pas à ses fils, et ses fils ne le disaient pas à leur mère. Et ils l'ont su, qu'ils allaient, elle le matin et eux le soir, à l'hôtel Lutetia, que des années plus tard. C'est une histoire extraordinaire.
Juste un mot avant d'ouvrir la conversation avec nos hôtes, à propos de Malraux, c'était la place effectivement de la femme ou des femmes dans sa vie, aussi bien sa mère que toutes les femmes.
Sa grand-mère.
Sa grand-mère, oui, et de toutes les femmes qu'il a, avec lesquelles il a vécu ou qu'il a épousées.
Oui, alors c'était un homme à femme, hein, c'est une particularité de Malraux. Il y en a deux qui sont traités... et qui sont des hommes à femmes, notamment deux, il y en a beaucoup qui sont des hommes à femmes, Mitterrand aussi, etc. Mais eux, qui étaient vraiment des grands séducteurs, c'est Malraux et Clémenceau. Clémenceau, on le traite parce que c'est un contre-exemple, parce que c'était la misogynie à un point inimaginable. Et il n'a été vraiment amoureux et attaché à quelqu'un que quand il avait 85 ans avec... Son éditrice, sa jeune éditrice, qui l'avait convaincu d'écrire un livre, et à qui il envoyait des lettres enflammées. Mais le reste du temps, il avait un mépris absolu. Et sa femme légitime avec laquelle il a eu des enfants, il l'a traitée d'une manière absolument incroyable. Malraux, lui, il a eu des passions successives, mais des vraies passions successives. Donc, du début à la fin, des choses un peu compliquées, y compris la compagne ou la femme de son frère. Après la guerre, son frère étant mort, etc., etc. C'était des choses... Et une vraie passion. Et j'ai un petit peu connu le couple qui était incroyable avec Louise de Villemorin. Oui, c'était quand même... C'est quand on les voyait ensemble, c'est quelque chose tout à fait...
Qu'il a rencontré une première fois et que finalement, il a rencontré beaucoup plus tard.
Voilà, absolument. Ouais. Oui, oui.
OK. Voilà, est-ce que vous souhaitez brièvement intervenir auprès de nos invités ? Des questions, des remarques ?
Des critiques ?
Des critiques, oui, faites-nous signe. Vous êtes totalement satisfait, apparemment. Vous voulez ajouter quelque chose, Natacha Henry ?
Moi, je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais que je voulais dire avant d'arriver. Donc, bon, voilà, je vais le dire. Non, c'est que d'abord, je suis très contente d'être ici parce que c'est un salon formidable. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais pour mon livre sur les sœurs savantes, donc Marie Curie et sa sœur Bronia, je suis venue à Morges car il y a ici un musée Paderewski qui était un grand ami de la famille polonaise et qui ensuite, quand il a fondé son gouvernement, a pris le mari de Bronia, donc le beau-frère de Marie Curie, qui était un monsieur polonais très intéressant, un grand pneumologue, donc un des fondateurs du Parti Socialiste Polonais. Donc il est rentré dans le gouvernement Paderewski. Et donc il y a 2-3 ans, je suis venue ici. Il y a deux monsieur très gentils qui s'occupent de ce musée et qui m'ont expliqué plein de choses sur Paderewski. Donc c'est assez génial d'être à Morges avec un livre qui parle de ça aussi.
Retour à Morges, donc. Et vous, Patrice Duhamel ?
Non, simplement, j'aimerais bien dans, je sais pas, 6 ans, 8 ans, 10 ans, là, à mon avis, pour la prochaine élection présidentielle, c'est mal parti, pouvoir faire un livre sur les... qui s'appellera Jamais sans eux, en effet. Voilà.
J'aimerais bien. Beaucoup. Je rappelle donc Jamais sans elle, Patrice Duhamel et Natacha Henry, notamment pour Marthe Richard. Je vous rappelle aussi que vous êtes naturellement sous cette grande tente pour dédicacer tous vos livres. Merci.
Merci
Bonne
beaucoup.
Suite de festival ici à Morges.
Merci.